Seigneur notre Dieu, accorde-nous encore d'être attentifs à ce que tu nous dis, à ce que tu nous montres. Ah non pas, Seigneur, dans un esprit dramatique, dans un esprit de culpabilité, dans un esprit de crainte, de peur, mais dans un esprit de véritable libération. La vérité vous rendra libre, nous dit ta parole. Seigneur, que ta vérité nous libère encore des craintes, des peurs, des angoisses, et qu'elle nous émerveille, Seigneur, à ce jour du grand retour, de ton retour, à l'établissement de ton royaume, Seigneur. Accorde-nous, par ta parole, Seigneur, de vivre en conséquence. Guide-nous, éclaire-nous, fortifie-nous, équipe-nous, Seigneur. Visite-nous chacun dans notre intimité, dans la profondeur de notre âme et de notre cœur, Seigneur. Parce que c'est en toi que nous nous confions, c'est à toi que nous nous attendons, Seigneur. Amen. On va continuer donc ce qu'on avait commencé il y a quelque temps là-bas. Oui, merci. Vous vous souvenez que la prédication d'il y a quelque temps, c'était de se focaliser sur le retour de Jésus-Christ. Parce que c'était une réalité, parce que cette question avait été posée par les disciples à Jésus, qui disait « Mais dis-nous quand ce sera l'avènement de ton royaume ?» Et que Jésus n'a pas éludé la question, il a donné des réponses précises. On a lu tous ces chapitres-là, presque tous ces chapitres de l'évangile de Matthieu, le chapitre 24, et on avait été interpellé par la réponse de Jésus qui disait « Tenez-vous prêts, tenez-vous prêts. » On ne peut pas parler du retour de Jésus sans, à un moment donné, s'arrêter sur les signes. Jésus a donné suffisamment de signes, et je pense que si il est intéressant au jour d'aujourd'hui de se préoccuper, comme tous les chrétiens l'ont fait de tout temps, mais peut-être d'une manière encore plus particulière aujourd'hui, c'est que on peut dire que parmi les signes qui sont évoqués, on atteint quand même des niveaux assez culminants pour l'instant dans le monde où nous vivons nous aujourd'hui. Les signes, c'est toujours la même chose. Hein, vous savez, comme moi, quand on dit ouais, c'est quand même fou, quoi. Qu'est-ce qui tombe comme pluie sur le sud de la France pour l'instant? C'est pas pensable, ça. Vous avez toujours quelqu'un qui va dans un bouquin et qui dit attends, 1784, il a déjà plu comme ça. Ouais, c'est rien, il a déjà plu comme ça. Hein? Ou bien quand vous dites on a quand même eu un mois de novembre tout à fait exceptionnel, quoi. C'est quand même un mois d'été, ça commence à se refroidir un peu, mais quel mois? On va aussi vous trouver une statistique qui vous dit qu'il y a 250 ou 350 ans, ça s'est déjà produit. Alors les signes, c'est toujours la même chose. Quand on parle des signes, on dit ça s'est déjà produit. Des guerres, il y en a toujours eu. Des famines, il y en a déjà eu. Des pestes, il y en a déjà eu. Ouais, c'est vrai. Et c'est tellement vrai que le Seigneur, il a cru bon de mettre en garde ses disciples tout au commencement de l'ère chrétienne. Il n'aura pas dit, écoutez, il va y avoir des histoires, mais c'est pour plus tard. Non, je vais vous dire ce qu'il va y avoir. Et alors, il expliquait dans chapitre 24 de Matthieu, on va revenir sur ces passages, il va se passer ça. Et il a cru bon aussi dans la dernière révélation, dans la révélation de l'Apocalypse, de reprendre les mêmes signes. En fait, si vous vous souvenez que dans le livre de l'Apocalypse, la vision de l'apôtre Jean, qui a été enfermé à cause de sa foi là-bas sur l'île de Patmos, il a cette vision extraordinaire de Jésus-Christ dans sa gloire, et puis il voit que on ouvre les sceaux des temps de la fin juste avant le jugement, et là on a les cavaliers de l'Apocalypse. Hein, une chevauchée avec quatre cavaliers et des chevaux de couleurs différentes. D'abord, c'est un cheval blanc, après, c'est un cheval rouge, après, c'est un cheval noir, après, c'est un cheval verdâtre. Et quand on lit ce qui est dit dans ce passage-là, on nous éclaircit sur la nature de ces images, de ces quatre chevaux, et on nous dit, j'ai regardé, voici, parut un cheval blanc, celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, il partit en vainqueur et pour vaincre. Puis apparut ensuite le second cavalier, lui il montait un cheval rouge feu, il était armé d'une grande épée, il sortit pour ôter la paix de la terre afin que les hommes s'égorgent les uns les autres. Puis apparut le troisième cavalier qui chevauchait un cheval noir. Il a une balance à la main qui lui sert de peser les denrées alimentaires dont les hommes ont besoin et de leur faire payer le prix fort. Enfin, le dernier cavalier chevauchait un cheval de couleur verdâtre. Il a pour nom la mort. Il agit sur le quart de la terre pour tuer les hommes par l'épée, la famine, la peste, par les bêtes sauvages de la terre. Quand vous regardez ces signes-là et que vous les mettez en juxtaposition, en parallèle avec les signes qui sont écrits dans le chapitre 24 du livre de Matthieu, vous lisez pratiquement la même chose. Dans la même chronologie, avec les uns un peu plus détaillés, un peu moins détaillés, tous ces signes, que ce soit dans l'évangile de Matthieu, dans la fin de la révélation de l'Apocalypse, préparent la venue d'un personnage qu'on appelle l'Antéchrist. On aura l'occasion de revenir sur ce personnage après. Mais les signes préparent, ils annoncent. Quels sont les signes auxquels nous devons être sensibles? Alors, comme j'ai dit, les signes, ils ont existé au temps des premiers chrétiens, ils ont existé pendant toute l'ère chrétienne, et ils vont se manifester dans les temps de la fin. Peut-être que ce qui doit nous interpeller aujourd'hui, c'est pas qu'il y a déjà eu des pestes, ou qu'il y a déjà eu des famines, ou qu'il y a déjà eu des guerres. Ce qui doit nous interpeller, c'est peut-être la manière dont ça se passe aujourd'hui. L'intensité de ces événements. La concomitance de tous ces événements. La brutalité avec laquelle surviennent ces événements, leur globalisation sur la surface de la terre entière. Peut-être que c'est ça qui doit nous amener à être attentifs à ce que Jésus disait. Quand vous voyez les plantes qui changent et les bourgeons qui apparaissent, vous savez que le printemps est presque là. Peut-être que c'est ces caractéristiques-là qui doivent attirer notre attention aujourd'hui. Le premier signe auquel Jésus va faire référence, c'est ce qu'on pourrait appeler la contrefaçon. C'est représenté un peu par le cheval blanc. Hein? Le cheval blanc, il y en a qui ont dit, ah, mais ça c'est Jésus. Non, non, le cheval blanc, c'est pas Jésus. Hein? C'est un des sceaux qui sont ouverts pour annoncer les temps de la fin. C'est pas Jésus, le cheval blanc. Hein? C'est un cheval qui vient annoncer quelque chose. Bon, c'est vrai, il est blanc. Il ressemble à quelque chose qui ressemblerait à Jésus. Mais en tout cas, c'est pas Jésus, ce cheval-là. Qu'est-ce que Jésus a mis en garde dans la première chose qu'il dit à ses disciples et qui est caractéristique de ce qui se passera avant la fin? Prenez garde, dit Jésus, que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi, je suis le Christ. Ils séduiront beaucoup de gens. Matthieu 24, les versets 4 et 5. En fait, la contrefaçon, Jésus nous dit, il y aura des faux Christ. Et Jésus nous dit, beaucoup seront séduits. Alors, j'aurais attiré l'attention sur le fait qu'il y aura des faux Christ. Il y a toujours eu des faux Christ. Quand vous regardez l'histoire de la chrétienté, ben, au deuxième siècle, il y a eu un gars qui s'est dit qu'il était le Christ. Au troisième siècle, il y en a eu un autre. Au sixième siècle, il y en a eu deux. Il y a toujours eu des gens qui ont dit qu'ils étaient le Christ. Pas beaucoup. Mais dans ces derniers temps, dans ces dernières années, dans ce dernier siècle, le nombre augmente, leur impact augmente. Hein, vous connaissez, c'est pas très important, mais par exemple, il y a le Christ de Montrachet, hein, c'est quelqu'un qui s'est autoproclamé Christ. Il y a le Christ de Miami, hein, cet homme qui s'est proclamé Christ et qui a eu, on dit, des millions d'adeptes. Il y a des millions de personnes qui ont cru qu'il était le Christ, celui qui venait, l'envoyé de Dieu, loin de Dieu. Il y aura des faux Christ. Et j'attire l'attention sur la séduction. Parce que ça, c'est quelque chose qui m'interpelle. Parce que je crois qu'on ne peut pas séduire quelqu'un qui n'est pas intéressé. Hein? Vous ne pouvez pas être séduit. Hein? Bon, si vous êtes un homme qui aimait une femme, vous êtes séduit par une femme. Vous ne serez pas séduit par un homme. On ne peut être séduit que lorsqu'on est sensible à quelque chose. C'est, l'ennemi de Dieu n'a pas besoin de séduire des gens qui ne croient ni en Dieu, ni en Jésus-Christ, avec des faux Christ. Ça n'aurait pas de sens. Il n'a pas besoin de les séduire, ceux-là. Ils sont déjà séduits tout seuls. La séduction, ça s'adresse aux gens qui cherchent. Ça s'adresse aux gens qui croient. Ça s'adresse à ceux qui ont été sensibles à certaines choses de la parole de Dieu et qui sont séduits dans les derniers moments. Je pense que si Jésus met en garde ses disciples dès le début de ne pas être séduits, c'est important pour nous d'essayer de voir, mais en quoi pourrions-nous être séduits? Quelles sont les marques de la séduction? Moi, je sais en quoi, par exemple, une jolie femme pourrait me séduire. Ça, c'est clair. Mais à l'encontre de Dieu, à l'égard de Dieu, en quoi je pourrais être séduit? La parole de Dieu nous donne trois pistes auxquelles nous devons vraiment les avoir comme des capteurs, des radars. Quand on touche à ces trois pistes-là, tout de suite, on devrait se dire, attends, où est-ce que je m'entraîne ici? Qu'est-ce que je suis ici? La première de ces pistes, c'est la négation de l'identité réelle de Jésus-Christ. Dans la première épître de Jean, chapitre 2, nous lisons « Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus-Christ est le Christ, que Jésus est le Christ ?» Donc le Christ, l'envoyé de Dieu, loin de l'Éternel, le Sauveur, le Messie. Celui qui nie que Jésus est le Messie, ça, c'est le menteur. Celui-là est l'antéchrist. S'il nie Jésus-Christ, il nie en même temps le Père. Parce que nous savons que Jésus-Christ et le Père sont un. Celui qui m'a vu, a vu le Père, dira Jésus. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père, et quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Donc ça, c'est le premier capteur de la séduction. C'est vrai que depuis la chrétienté, on se bat autour de la personne et du nom de Jésus-Christ. Dès le commencement, hein, c'est pas quelque chose de notre siècle. Hein. Si vous lisez l'histoire de la chrétienté, vous verrez que des chrétiens se sont battus à propos de la divinité de Jésus-Christ, à propos de toucher à la divinité de Jésus-Christ, à l'unité de Jésus-Christ avec le Père. Et les témoins de Jéhovah croient aussi en Jésus-Christ, mais il est une puissance céleste incarnée. Et les musulmans croient aussi en Jésus-Christ. Il est le plus grand prophète après Mahomet. Il a même été souverainement élevé, parce que Dieu n'a pas voulu, Allah n'a pas voulu que Jésus-Christ meure. Donc il a été souverainement élevé. Il n'est pas mort et ressuscité, mais il a été souverainement élevé pour les musulmans. Mais il n'est pas le Fils de Dieu, il n'est pas Dieu, il est un prophète. Chaque fois qu'on touche à la personne de Christ, on devrait se dire séduction, séduction. Le deuxième élément qui nous est donné à la parole de Dieu et qui nous parle de la séduction, c'est, on pourrait dire, le plagiat. Combien de fois, vous avez entendu, n'est-ce pas, des gens, quand vous parlez de l'autorité de la Bible, de la parole de Dieu, des gens qui vous disent, mais on a trouvé aussi l'évangile de ceci, et l'évangile de machin, et l'évangile de bazar, on en a trouvé plein des évangiles. Et comme par hasard, les évangiles qu'on a trouvés, ben, ils sont pas conformes avec les évangiles qui sont dans la Bible. Il y a des choses qui sont différentes, des histoires qui sont différentes. Dans la deuxième aux Corinthiens, l'apôtre appuie ce fondement, cette base de cette vérité-là qui va être copiée, transformée, modifiée. Chaque fois qu'on va vous dire que c'est faux ici, que c'est modifié, qu'on a trouvé ce qui contredit ceci et qui contredit cela, chaque fois il faut avoir le capteur qui s'illumine, le plagiat, la contrefaçon, attaquer la parole. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, Da Vinci Code, l'histoire de Marie-Madeleine, tout ça c'est la vérité, aujourd'hui c'est la vérité, on a découvert ça. Quiconque viendra vous apporter un autre évangile, un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché. Aussi vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu. Un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Sommes mis en garde, c'est facile, c'est tentant, c'est une séduction facile. Nous sommes sensibles à l'écriture, nous cherchons les textes, nous cherchons la vérité. On nous en donne d'autres vérités, d'autres textes. C'est facile, c'est une séduction facile. Soyons attentifs à tout ce qui touche à l'évangile que nous avons reçu. Et la troisième piste de séduction, particulièrement intéressante vers les moments dans lesquels nous allons nous approcher, celle des miracles, qui sont des miracles mensongers. Vous savez que quand on parle de l'impie un peu plus loin, et puis quand on parle de l'antéchrist, on met en évidence qu'il y a quelqu'un qui, sur la surface de la terre, au nom de la spiritualité, va faire des choses extraordinaires, des signes incroyables. Et que dit Jésus en Matthieu 7, 22, 23? Ceux qui me diront « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ces textes, ça veut dire que un jour, nous allons voir des gens qui vont faire des choses au nom de Jésus-Christ, des gens qui vont faire des choses extraordinaires, mais ces signes-là, ces miracles-là, ça voudra rien dire. Parce que ce qui compte, c'est celui qui fait la volonté de mon Père, qui fait les choses au nom de mon Père et en mon nom. C'est ça qui compte. Pas celui qui fait par le nom de Jésus quelque chose sans être sous la croyance, l'autorité de Christ et de son Père. Troisième signe de séduction. Deuxième signe des temps de la fin auquel Jésus fait référence, c'est les rumeurs de guerre. Alors ça, c'est sûr, c'est vrai que vous allez dire, les guerres, tu prends l'Ancien Testament ici et tu vas voir que les guerres, il y en a depuis un fameux paquet de temps. Hein, ça s'est toujours passé, il y en aura toujours. Alors dire, comme dans Matthieu 24, vous entendrez parler de guerre, de rumeurs de guerre, gardez-vous de vous alarmer car cela doit arriver, mais ce n'est pas encore la fin. Ok, c'est vrai. Mais je parlais tout à l'heure de dimension, d'universalité, ou en tout cas de globalisation de guerre. Peut-être il y a toujours eu des guerres, c'est vrai. Mais nous fêtons le 100e anniversaire de la guerre 14. Vous savez qu'on nous en a suffisamment parlé. Et nous qui avons été habitués à ça, on ne se rend pas très bien compte de ça. Mais quand on nous parle de tout ça, on se rend compte que ça n'avait jamais existé auparavant. Que 18 millions de personnes sur le monde entier dans un conflit mondial meurent. Ça n'avait jamais existé. Alors on a fait l'Association des Nations pour que ça n'arrive plus jamais, mais 20 ans après, c'est recommencé. Et là, on n'a pas fait 18 millions de morts, on a fait 45 millions de morts dans la Deuxième Guerre mondiale. Alors on a fait l'Organisation des Nations Unies pour que ça n'arrive plus jamais, et pour l'instant, on n'a pas de Troisième Guerre mondiale, c'est vrai. Mais voyez l'atlas qui est repris ici, c'est un atlas assez récent, c'est quand même la couverture provisoire, et dans cet atlas-là, on mentionne le nombre de conflits qu'il y a eu ces dernières années. On évalue à 160 conflits, guerres ces dernières années, qui n'ont pas fait une guerre mondiale, mais qui ont fait pas moins de 40 millions de morts. Tous ces conflits-là dont on ne parle quasi pas, parce qu'il n'y a pas eu de guerre mondiale, ont fait sur ces quelques décennies de nouveau 40 millions de morts. Si vous êtes attentif un peu à ce qui se passe, hein, premier cavalier, le cavalier blanc, je ne fais pas de relation cause à effet ici, hein, mais il y aura une puissance spirituelle qui va se manifester. Hein, vous savez qu'on peut tout dire, on peut tout imaginer. Enfin, mettons simplement des chronologies. En 2013, nous avons eu un nouveau pape, hein, un pape qui est particulier, qui, en parenthèse, est apparu d'une manière particulière, parce qu'on n'a pas un nouveau pape avec un autre pape qui parle d'habitude. Donc, un contexte spécial. Vous savez qu'on a proposé au pape François d'être un peu une sorte du président, d'une sorte de l'ONU spirituelle, hein, une sorte d'organisation des Nations Unies spirituelle dont il serait président. Enfin, je ne sais pas ce qu'il a répondu, mais vous avez vu le pape François il y a quelque temps qui accuse la vieille Europe, qui condamne la vieille Europe. Donc on a un personnage qui a pris de la place sur la scène mondiale en 2013. 2014, notre année, on n'a jamais parlé autant de guerre, mes amis. Je ne sais pas si vous êtes un peu attentifs à ce que disent les politologues, mais nous avons commencé avec le conflit en Ukraine, qui est loin d'être un petit machin. On a continué tout l'été avec une reprise d'une violence extrême entre le Hamas et Israël. On a assisté à l'État islamique qui débarque en Irak, qui débarque en Syrie. Nous sommes en guerre mondiale. Vous avez entendu les paroles de M. Obama, n'est-ce pas? Nous sommes en guerre mondiale contre l'État islamique. Aujourd'hui, on n'a pas la Troisième Guerre mondiale, mais on a plein de conflits partout. On a des blocs de puissance qui se remettent tout à fait en place. On a des pays émergents dont on n'avait plus jamais parlé depuis des siècles qui sont là en pleine puissance. On a des nouvelles alliances qui se font. On a le socle de la vieille Europe de la chrétienté qui disparaît. Il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui. Quand vous écoutez les politologues qui vous parlent des temps où nous vivons, beaucoup commencent à parler de Troisième Guerre mondiale. Beaucoup. on attribue aux paroles de, on attribue ces paroles à Einstein. Je ne sais pas si c'est vrai. On dit que Einstein aurait dit que s'il y avait une troisième guerre mondiale, en tout cas, il n'y aurait plus beaucoup de gens pour assister à la quatrième. Et il a dit, je ne sais pas comment sera faite cette troisième guerre mondiale, comment sera faite cette troisième guerre, mais en tout cas, c'est certain que la quatrième, elle se fera avec des cailloux et des bâtons. Là, on dit qu'Einstein aurait dit ça. Ce matin, on ne sombre pas dans le défaitisme, dans la catastrophe, dans la pleurnicherie, dans le drame, hein, parce que souvent on dit hein, ouais, avec toi tout est dangereux, ouais, c'est grave, ouais, c'est grave, ouais, ok. On sombre pas là-dedans, on sombre dans l'espérance. Vous entendrez parler de guerre, de rumeurs de guerre, gardez-vous de vous alarmer, parce que cela doit arriver. Nous savons que nous croyons en l'avènement de Jésus-Christ. Nous croyons en un monde qui est en gestation et qui doit changer. Nous croyons en quelque chose qui doit être transformé. Nous croyons aux douleurs de l'enfantement, de la transformation, comme ça ne sert à rien de dire quand nous voyons notre enfant naître, c'est magnifique une naissance, mais c'est passé par les douleurs de l'enfantement. Donc ça ne sert à rien d'occulter les choses. La femme sait ce qu'est la délivrance, oui, mais elle est quand même passée par la souffrance. Ces choses doivent arriver. On ne part pas ce matin en ayant peur des choses qui vont nous arriver. Elles sont réelles. Elles arriveront quand même. En avoir peur, ça ne sert à rien. N'ayez pas peur, dit le Seigneur. N'ayez pas peur. Je suis avec vous du premier jusqu'au dernier jour. Le troisième signe qui est précurseur des temps de la fin, c'est un ensemble de phénomènes catastrophiques. C'est parallèle dans le chapitre 24 de Matthieu où il dit « Il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. » Et ça se retrouve avec le cavalier qui chevauchait le cheval noir et qui a une balance à la main. Il y a plus de nourriture et il faut payer le prix fort pour avoir à manger. Je pense que si vous êtes un peu attentif à ce qui se passe, vous allez dire « Ouais, mais il y a toujours eu des crises économiques. Ça a toujours été difficile. » Non, bien sûr, ça a toujours été difficile. Il y a toujours eu des gens très riches et des gens très pauvres. Bien sûr, dans toutes les civilisations et dans tous les temps. Mais regardez ce qui se passe aujourd'hui. On a connu une grosse crise boursière, économique en 2002-2004. Ça a été la catastrophe avec les subprimes en 2008. Et depuis lors, ça n'en sort plus, mes amis. Hein, les États injectent de l'argent. Mais rien ne se passe. On a été dans une inflation terrible pendant des années et maintenant on a peur de la chose la plus grave, la déflation. Ça va pas bien. Si vous regardez ce que les économistes disent, peut-être on a eu un nouveau pape en 2013, on a beaucoup de mouvements de guerre en 2014, mais en 2015, beaucoup d'économistes disent que c'est la fin. Tout va s'effondrer économiquement. Bon, c'est pas la première fois qu'on nous dit ça aussi. Mais c'est grave, c'est tendu, ça va très très mal économiquement. Les famines, bien sûr, il y a toujours eu aussi des famines. On pourrait même dire que quand on regarde le nombre de gens dans la dimension planétaire qui ne meurent plus de famine, on pourrait dire proportionnellement il y en a moins qu'auparavant. Il y a eu une amélioration. Mais regardez autour de vous. Je ne sais pas si vous avez entendu. J'ai entendu les chiffres, mais j'ai oublié. Les chiffres des repas, des restos du cœur qu'on préparait en France. Mais c'était phénoménal. Regardez en Belgique le nombre de gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et il n'y a pas que ça au niveau de la famine. Il y a des gens qui vivent dans les pays riches et qui n'ont plus rien. J'étais en France avec Viviane la semaine passée, on était dans un resto, manger des olives, elles étaient très bonnes. La dame, elle nous dit, profitez-en parce que cette année, il n'y en a pas. Comment il n'y en a pas? Ah non, il y a une petite mouche, elle est venue pondre dans les fleurs, il n'y a pas une seule olive en Provence pour l'année à venir. Quand on va sur la côte à hier, il y avait tous les grands palmiers qui sont là depuis un siècle, on les a tous coupés. On les a coupés parce qu'il y a une petite chenille dedans, elle bouffe tout le tronc. Vous savez que chez nous, tous les marronniers meurent. Ils meurent, on dit, ah, j'ai la pollution. Non, c'est une toute petite chenille qui est dedans. Elle les tue, tous les uns après les autres. Il n'y a pas que ça dans la famine. Il y a aussi ces éléments qui sont là et qui vont faire que demain, est-ce que nous aurons encore à manger? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que les olives vont pourrir? Les prunes vont pourrir? Les poires vont pourrir? Le cavalier est là avec sa balance. Il n'y a plus de nourriture et il faut payer le prix fort pour avoir quelque chose. Regardez les tremblements de terre. Il y a toujours eu des tremblements de terre, bien sûr. Bien sûr, il y a toujours eu des tremblements de terre. Quand vous allez dans les vieilles cités antiques, quand vous allez à Éphèse, on vous montre, regarde, ça c'est la couche numéro 1, regarde, c'est la couche numéro 2, la couche numéro 3, on vous montre le carrelage qu'on a mis sur le mur, puis la faïence, puis la fresque, puis un nouveau carrelage. Et on vous dit, à chaque tremblement de terre, tout a été cassé, alors ils ont remis une couche sur la suivante. Il y a toujours eu des tremblements de terre. Ok. Mais on recense les tremblements de terre depuis environ le début du siècle passé, depuis 1900. Et quand on mesure l'intensité des tremblements de terre, on considère que sur cette période de plus de 100 ans, il y a à peu près eu 6 tremblements de terre vraiment graves. Pas des tremblements locaux comme à Éphèse ou comme sur la faille de Nice là, ou comme pas des tremblements de terre comme ça. Des gros tremblements de terre. Sur ces 110 ans à peu près, il y en a eu 6. Et 3 dans les quelques dernières années. Il y a toujours eu des tremblements de terre. Mais les pestes, les épidémies. Oh, il y a toujours eu des maladies. Évidemment, ça, vous dites à quelqu'un, les temps de la fin, c'est les maladies. Il y a toujours eu des pestes, il y a toujours eu des épidémies, il y a toujours eu des maladies. Oui, mais quand même, au début du siècle passé, il y a eu la grippe espagnole. Elle a fait environ 30 millions de morts. Mais vous savez qu'au début, la grippe espagnole, c'est une bête grippe, hein. Elle est simplement contagieuse. Elle tue personne. C'est une grippe comme les grippes qu'on a, nous, à notre époque, et qui, si vous êtes vieux, fragilisé, vous faites une infection pulmonaire, ça se dégrade, et tchic, et tchac, vous mourrez, d'accord. Mais la grippe espagnole en soi, elle n'était pas mortelle, elle était contagieuse. C'est au fil du temps et de sa propagation que c'est devenu une maladie mortelle, et qu'elle a tué 30 millions de personnes. Regardez autour de nous, quand moi j'ai terminé les études, en 78, il y avait le ciel qui tombait sur la tête. On avait identifié le virus du sida. Ça transformait tout. Ça transformait tout dans les règles des contaminations, dans les règles de stérilisation, dans les cabinets dentaires, dans les hôpitaux, partout. Regardez, depuis le virus du sida, on a eu le prévient, on a eu la vache folle, on a eu la grippe aviaire, on a eu le chikungunya, on a plein de trucs qui sont là qu'on ne sait pas maîtriser. Regardez Ebola. Celui qui a identifié le virus d'Ebola, on dit qu'on est en passe de faire un vaccin, ok, c'est bien. C'est lui qui a identifié et a dit qu'il n'osait pas imaginer, parce que pour lui, ça va être la catastrophe avec Ebola. Ça va être la catastrophe. On verra, on va voir. Les pestes, les épidémies. L'intensité des phénomènes terribles. Le Seigneur fait référence à des phénomènes terribles. Des signes. Est-ce que, bien sûr, nous sommes habitués. C'est du rien du tout. On nous en parle tous les jours dans nos TV, bien sûr, ok. Moi, je ne peux pas oublier le lendemain de notre Noël, là, 2004 ou 2005. On avait fait la fête le 25 décembre. Et le lendemain, on se lève. Et qu'est-ce qu'on voit? Un raz-de-marée à Phuket, là-bas, 220 000 morts. 220 000 morts. Quelques années après, je crois que c'est 2010, en janvier, le séisme en Haïti. Souvenez-vous, j'avais fait une prédication là-dessus, j'avais été interpellé par le nombre. 230 000 cadavres en quelques minutes. Je me souviens que j'avais réfléchi volumiquement, parce que ça ne représente rien pour moi, 230 000 cadavres. Je me dis bien, puisqu'on mesure à peu près 2 mètres, si on nous aligne cadavre contre cadavre, tête contre pied, comme ça sur une file, 230 000 cadavres, c'est aller de Bruxelles jusqu'à Paris, puis faire demi-tour dans l'autre sens, et relonger de nouveau une file de cadavres qui va tête contre pied de Paris jusqu'à Bruxelles. 230 000 cadavres, un petit séisme, un petit raz de marée. Un an après, 2011, Fukushima était échelle numéro 7 sur le danger nucléaire. Échelle numéro 7 sur une échelle de 1 à 10. Bien sûr, tous les jours, il nous arrive un truc, alors, 230 000 par-ci, 230 000 par-là. Non, mes amis. Soyons attentifs. L'amplitude, la convergence, la concomitance, la simultanéité de toutes ces choses n'en font plus des faits isolés, sporadiques de l'histoire. Les grands signes dans le ciel. Est-ce que vous entendez ce que vous entendez aujourd'hui? C'est le marasme aujourd'hui parce que des nuages décident de ne plus bouger. Ça n'a jamais existé. On ne comprend pas. Les nuages, ils ont toujours bougé avec du vent. Et aujourd'hui, on ne comprend pas qu'un nuage s'arrête sur une région, pleut, inonde tout ce qui s'y trouve, et puis arrête de pleuvoir. On ne comprend pas. C'est un nouveau type de nuage. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces nuages monstrueux. Moi, j'ai même cherché sur Internet, parce que ça fait 2-3 fois que cet été passé, je suis sur la terrasse, et je vois au loin, mais des nuages monstrueux, des trucs qui ont des formes noires, vraiment un volume dans le nuage. D'ailleurs, j'ai déjà même appelé Viviane, en me disant, Viviane, viens voir un nuage, regarde ça, quel nuage. Je lui dis, ben oui, c'est un nuage. Je t'ai regardé sur Internet, j'ai vu qu'il existe des nuages monstrueux. Je sais pas ce qu'ils vont faire, je sais pas si ce sont des signes dans les cieux, on les appelle pas des nuages monstrueux, ils ont un nom, mais ils ont des formes vraiment apocalyptiques, monstrueuses, diaboliques. C'est pas tous les jours qu'il y a des nuages comme ça. Des signes dans le ciel. Oui, il y aura des signes dans le ciel. Quatrième signe, c'est l'avant-dernier. La persécution. Alors, on vous livrera à la détresse, au tourment. On vous tuera. Vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom. Et ce sera pour beaucoup une cause de chute. Ils se livreront, ils se détesteront les uns aux autres. Les uns les autres, Matthieu 24, 9. La persécution, c'est la même chose, c'est une constante. On peut même dire que la persécution, c'est quelque chose qui commence dès l'histoire de la Bible. Il y a déjà un Abel qui fait un sacrifice à Dieu, et il y a déjà un Caïn qui fait un sacrifice à Dieu, mais ils ne sont pas d'accord. Les uns avec les autres, ils sont pas d'accord avec le Dieu qu'ils adorent, et bon, il y en a un des deux qui tue l'autre. Donc la persécution, c'est dès le commencement de l'histoire de l'humanité. Et c'est sûr que même, elle est inhérente au statut chrétien. Vous savez bien que le Seigneur dit, si quelqu'un veut venir après moi, et s'il me suit, il doit changer de sa croix, il doit renoncer à... dans sa vie, et bon, le Seigneur a suffisamment parlé de l'engagement que ça représentait de croire en lui. Donc, la persécution, quelque part, elle est intégrée à la chrétienté. Mais quand même, les derniers jours seront comme les premiers. On n'a pas toujours vu la persécution comme on la voit maintenant. On l'a vu il y a très longtemps. C'est pour ça que ces signes annonciateurs étaient donnés aux premiers disciples, parce que vous savez quand même que sur le temps de l'Empire romain, il y a au moins 10 empereurs qui n'ont fait que massacrer du chrétien, et massacrer du chrétien, et massacrer du chrétien. Après, ça s'est calmé. On peut dire que quand même pendant des siècles, beaucoup de populations chrétiennes, musulmanes, juives ont vécu dans une cohabitation parfaite, dans les mêmes rues, dans les mêmes maisons, pas les mêmes maisons, mais les mêmes quartiers. Et puis, si vous êtes un peu sensible à ce que nous lisons sur les sites comme Porte Ouverte, vous savez, je crois, le dernier chiffre de Porte Ouverte, c'est de dire qu'aujourd'hui, il y a 200 millions de chrétiens qui souffrent, qui sont persécutés pour leur foi. 200 millions. Et c'est vrai que dans les pays comme les nôtres, bon, on ne va pas dire qu'il y a de la persécution physique, ok, mais on est quand même bien embarqué sur une persécution morale, une persécution spirituel, dans toutes les décisions politiques et autres qui sont prises, on sait qu'à un moment donné, il faudra prendre vraiment une distance claire et nette par rapport aux choses qui sont décidées. Les derniers jours seront comme les premiers. Dernier signe, la prolifération du mal. Vous allez dire aussi, elle est du mal, quoi. Il y en a toujours eu, Il y a toujours eu, l'homme, il est touché par le péché, il y a toujours eu du mal. C'est vrai, c'est vrai. Mais, vous savez, moi, je suis ahuri des histoires que me racontent les patients. Les arnaques dont ils sont victimes. Les truandages dont ils sont victimes. Les vols des gens. Dans vos connaissances, comme ça, vous rendez peut-être pas compte, mais vous avez des gens qu'on rentre, on met le revolver sur la tempe de monsieur, le revolver sur la tempe de madame, on demande les clés de la voiture, on demande... avant, on venait voler quand vous n'êtes pas là. Aujourd'hui, on vient plus voler quand vous n'êtes pas là. On a besoin que vous soyez là, parce qu'on a besoin de votre coffre, on a besoin de vos clés de voiture et de tout. Quand vous regardez la dimension que le mal a pris, mes parents, mes grands-parents ne fermaient jamais une porte. Ça se fermait pas une porte. Et les gens rentraient s'ils voulaient par la porte de derrière. Aujourd'hui, qui encore le sait? À part les 22 cons, qui ont leur clé sur leur porte. Hein? Mais je connais pas d'autres, hein? C'est parce que je vois, tu balances la tête, là, je dis, ouais, c'est vrai. Chez Henri, la clé est sur la porte. Mais je connais personne qui laisse la clé sur la porte. Écoutez les histoires des gens. Aujourd'hui, vous voyez une femme qui est sur le bord du chemin avec un bébé et qui vous fait signe de vous arrêter, vous accélérez. Vous dites, non, je connais, je sais, il y a trois types derrière qui vont me massacrer quand je vais m'arrêter. Regardez ce que vous voyez dans votre TV tous les jours. Ah, moi, quand je suis à table, que je vois ça, je dis, mais mince, autant plus manger, quoi. Le mal se répandra, l'iniquité sera accrue, l'amour ou la charité du plus grand nombre se refroidira. Vous avez déjà vu ça, hein? on fait ces vidéos. Je juge personne, hein, parce que qu'est-ce que je ferais? L'autre jour, on arrive à un carrefour, il y a une vieille dame, elle nous arrête avec sa voiture, elle dit, je suis embêté, c'est pas ma voiture, je sais plus la conduire. Je me dis déjà, mais comment est-ce qu'elle est arrivée jusque-là? Je sais plus la conduire. Alors elle dit à Viviane, madame, vous pouvez pas me conduire jusqu'à la banque, puis me ramener? Je dis, qu'est-ce que c'est, cette magouille encore, qu'est-ce que c'est, ce truc? J'ai dû me raisonner pour dire, mais non, écoute, c'est une vieille dame, elle a un problème, je sais pas, elle sait plus conduire sa voiture. Donc on a été la conduire, on l'a ramenée chez elle, en parenthèse, elle habitait à 10 kilomètres. Je me suis dit, mais mince, moi qui croyais qu'elle savait pas conduire. Bref. Aujourd'hui, nous nous méfions de tout. Où est l'amour? Vous avez déjà vu ces vidéos où on voit, hein, vous voyez un type qui commence à tabasser une femme à la rue ou quoi? C'est du faux. Mais on regarde les réactions des gens, tout le monde s'en fout. L'amour ou la charité du plus grand nombre se refroidira. On va s'arrêter avec les signes, parce que ce sont des signes. Mais quand même, je reviens avec l'interpellation du Seigneur lorsqu'il a donné ses signes à ses disciples et il a terminé en disant « Tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Et à ces trois conclusions que j'avais déjà données la fois dernière sur cette interpellation, la première c'est que cette affirmation du Seigneur nous exhorte à trois choses. Elle nous exhorte à la patience, nous sommes dans l'attente de quelque chose d'autre. Nous sommes dans l'attente du retour du Christ. Nous sommes dans l'attente d'un autre monde. Nous sommes dans l'attente d'un jugement. La deuxième, c'est que cette affirmation les exhorte aussi dans le sens où elle nous avertit danger de vous endormir et d'oublier d'avoir cette vision tournée vers le principal. À savoir, non pas que, aïe, 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 il va y avoir des guerres, aïe, 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 les gens sont de plus en plus méchants, aïe, 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 il y a de plus en plus de faux Christ. Non. À être tourné vers le principal. Jésus-Christ doit revenir. Lui seul doit revenir. Et enfin, la troisième exhortation, c'est que soyez prêts, parce que vous ne savez pas l'heure, ça nous invite aussi à être attentif, à garder les yeux ouverts sur les signes annonciateurs et précurseurs qui nous sont donnés par le Maître. Amen. On va prier. Seigneur notre Dieu, merci pour ces mises en garde, merci pour ces informations, Seigneur. On dit qu'un homme averti en vaut deux, Seigneur. C'est vrai qu'il y a des choses dont nous disons, il vaut mieux pas savoir. Seigneur, merci que tu nous avertis, non pas pour nous enfermer, pour nous faire peur, pour nous terroriser, mais que tu nous avertis pour que nous gardions les yeux sur ton retour, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, te prier que tu nous gardes en ces temps, que tu fortifies la relation qu'il y a entre nous individuellement et toi, que tu fortifies ton Église. Nous voulons te remettre encore, c'est vrai. Merci Seigneur pour avoir vu quelques personnes du marché hier à notre rencontre. Nous voulons te remettre encore, Seigneur, notre témoignage. Nous voulons te prier pour ces gens qui entendent parler de toi. Nous voulons te demander, Seigneur, qu'encore aujourd'hui, des yeux s'ouvrent. Oh Seigneur, agis encore en cette période de Noël qui s'approche, dans nos maisons, dans nos familles, auprès de nos amis. Fais de nous, Seigneur, des témoins fidèles, Seigneur. Amen.